Deux fois dans la Megillah, on cite Esther et on cite son père. Tu dois faire demain ce que tu as fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont tué tous les Amalécites. Et 10, ils les ont pendus. Tu veux en faire la même chose? Pour un fest 1946. Comprenez ce qui s'est passé à la Shoah. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Sacha Shmuel ben Feliza Esther, le Chon Levracha de mémoire béni. On est mercredi, la semaine prochaine. Mercredi, c'est la fête de Pourim ici à Yerushalayim. Dans le monde entier, c'est mardi. On va parler un peu de la Megillat Esther. Avec l'actualité, il y a de fortes chances que Pourim, la semaine prochaine, on soit en guerre contre l'Iran. Est-ce qu'il y a un rapport? Il y a un rapport. Parce que toute la Megillah, c'est une histoire d'une guerre contre le descendant du roi de Amalek, Haman. Haman ha-Agagi. Agag, c'était le roi de Amalek. Son descendant Haman, qui veut anéantir le peuple d'Israël. Et Mordechai et Esther vont se battre, et Baruch HaShem vont réussir à annuler son décret, et lui et ses 10 enfants vont être pendus sur un mât. On a Amalek aujourd'hui, c'est l'Iran. Comment on reconnaît Amalek? Ils ont une haine contre nous anormale. Que je sois en guerre contre les pays frontaliers d'Israël, c'est normal. Hezbollah au Liban, Hamas à Gaza, mais l'Iran et les Houthis qui sont payés par l'Iran, on est à 2000 km des deux. Qu'est-ce que je ne vous touche pas, je n'ai pas pris de vos territoires, je ne prends pas de votre pétrole, je n'ai rien fait. Et l'Iran affame son peuple pour prendre de l'argent, pour créer des armes capables de nous détruire. C'est complètement anormal. Bibi, ce n'est pas un religieux, mais il a dit que c'est une obsession. Ils ont une obsession de anéantir Israël. Et, quand on va lire ce Shabbat maintenant dans Parashat Zachor, « Asher kacha baderech » Amalek, il a refroidi la baignoire. C'est-à-dire qu'on était comme, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était comme une baignoire bouillante. Personne n'osait mettre son doigt dedans. Vient un fou, se jette dans la baignoire. Il est bouillanté, mais au moins il a refroidi. Qui c'est? Amalek. Il est venu en guerre contre nous. Et comme ça, il a cassé le mythe d'invisibilité du peuple juif. Là aussi, l'Iran veut se battre contre nous, mais au prix de sacrifier son peuple. Ils sont en train de mourir de faim et de soif. C'est exactement ça. Amalek, il est prêt à mourir. Seulement si on peut comme ça casser, tenter de casser Israël. Bezrat Hashem. À la fin de l'histoire, Amalek doit disparaître. Il semblerait que ça va être cette guerre qui va nous amener Bezrat Hashem à la Géoula, on espère. Et si cette guerre a lieu pendant Pourim, c'est extraordinaire. Parce que c'est vraiment la guerre contre Amalek. Pourquoi Esther, c'est elle, parmi tous les juifs, les grands juifs de l'histoire, c'est elle qui s'est battue, en tout cas à l'époque, contre Haman de Amalek, parce que le mérite de Amalek, c'est qu'il provient, c'est un descendant de Esav. Dans Esav, pendant les 22 ans où Yaakov était chez Lavan, il s'est marié, il a amassé beaucoup de troupeaux, etc., Esav avait une mitzvah énorme, kibboud av et em. Personne dans l'histoire n'a jamais fait kibboud av et em, honorer son père et sa mère, aussi fort que Esav. Et c'est ça son mérite, il a une mitzvah énorme. C'est une très grande mitzvah. Il fallait prendre quelqu'un qui n'avait pas de parents. Esther, c'est marqué dans la Megillah, qui en la av et em, elle n'a ni père ni mère. Quand elle a été conçue, le père il est mort, quand elle est née, la mère elle est morte. Parce que quelqu'un qui a des parents, c'est écrit dans la Gemara, Ashrei lo Haman, heureux ceux qui n'ont pas vu leurs parents. Pourquoi? Parce qu'avoir des parents, c'est à tous les coups que tu vas faire des erreurs. Et tu touches kibboud av et em, ce qui est extrêmement grave. Donc c'est mieux que tu sois orphelin. Heureux, dit la Gemara, dit Rabbi Yochanan, heureux sont les orphelins. Parce qu'eux au moins, c'est certains qui ne vont pas faire de problème avec leurs parents. Alors Chaim Kanievski pose la question, ouais, mais ok, ça c'est au négatif, mais au positif, faire la mitzvah, ils ne vont pas faire. Alors, quelqu'un qui aurait beaucoup, beaucoup voulu avoir des parents pour pouvoir les honorer, c'est comme s'il les a eus, c'est comme s'il a fait la mitzvah. C'est le cas de Esther. Donc c'est elle qui va être l'adversaire de Haman, parce qu'elle n'a pas le problème d'avoir touché cette mitzvah de Kibbout Avaim. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le sujet. Ce que je vous dis, c'est écrit nulle part dans aucun bouquin. J'espère que je ne vais pas me tromper. C'est des choses, je pense, qui ont à voir avec l'actualité. Deux fois dans la Megillah, on cite Esther et on cite son père. Esther bat Avichail. Son père s'appelait Avichail. Elle, elle est citée des dizaines de fois dans la Megillat Esther. Mais deux fois seulement, on la cite en disant son père aussi. La première fois, c'est dans le chapitre 2, verset 15. « Ubehagi ator Esther bat Avichail » Lorsque est venu le tour de Esther bat Avichail, toutes les femmes qui venaient pour être candidates à être la femme du roi, qui était Dod Mordechai. Avichail, c'était l'oncle de Mordechai. Et lui s'est marié avec, donc, la fille de son oncle. Asher lakach lo levat, qu'il a pris en tant que fille, mais c'est en tant que femme, la voie à la mère pour venir chez le roi, lo biksha davar, elle n'a rien demandé. On lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux des danseuses? Tu veux une belle robe? Tu veux des tambourins? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux rien du tout. Comme ça, elle est rentrée, se faire examiner par le grand examinateur des femmes, préposé par le roi Achashverosh. Pourquoi est-ce qu'on cite ici son père? Qu'est-ce qu'on en a à faire de cette histoire-là? Pourquoi Esther bat Avichail, alors que tous les autres endroits, on ne cite pas son père? Deuxième fois, c'est à la fin de la Megillah. Mordechai et Esther décide d'écrire une deuxième fois l'ordonnance aux Juifs de faire la fête de Pourim. C'est le verset 29 du chapitre 9. Vatirtov Esther Hamalka bat Avichail. Et a écrit Esther, la reine, fille de Avichail, ou Mordechai et Mordechai le Juif, et kol tokef, toute la puissance. La Kayem est Iger de Purim Azot Hashenit, de réaliser cette deuxième lettre de Purim. Il y a eu une première lettre. C'est exactement les versets d'avant, depuis le verset 20 jusqu'à ce verset-là. C'est marqué, je vais vous lire en français, ça ira plus vite, que de traduire mot à mot. Et ça nous pose une très grande question. Mardoché mit par écrit ces événements, expédia des lettres à tous les Juifs, proches ou éloignés, dans toutes les provinces du roi Assuréus, leur enjoignant de s'engager à observer année par année le 14e jour du mois et le 15e jour. C'est-à-dire les jours où les Juifs avaient obtenu rémission de leurs ennemis, etc., etc. Tous les versets qui parlent maintenant de faire Pourim. C'est pourquoi on a placé ces jours-là Pourim. Les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux, pour leurs descendants et pour tous ceux qui se rallieraient à leur obligation immuable de fêter ces deux jours-là, suivant la teneur des écrits et la date fixée année par année, de commémorer et de célébrer ces jours de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, ne pas laisser disparaître ces jours de Pourim du milieu des Juifs, ni s'en effacer le souvenir du milieu de leurs descendants. Donc Mordechai a demandé aux Juifs, on fait une nouvelle fête maintenant, Pourim. Et il y a dix versets qui parlent de ça. Et c'est marqué à la fin, tout le monde a pris, dans toutes les familles, dans toutes les villes, pour toujours, immuable, on fera Pourim. Juste après, puis la reine Esther, fille d'Abichai, et Juif Mardoché, écrivirent de nouveau de faire cette fête. Vatirtov, et c'est marqué un peu différemment. Parfois, on peut dire dans la traduction, en tout cas, je vous le lis dans l'hébreu. Et ils ont écrit Vatirtov, Esther Amalka bat Abichai ou Mordechai Yehudi, et kol tokef, après il y a une virgule. Toute la puissance. On ne nous dit pas quelle puissance. C'est quoi cette puissance? Qu'est-ce que ça vient dire là? D'abord, pourquoi tu écris? Tout le monde a accepté qu'ils allaient le faire. Pourquoi tu réécris? Alors Haché a dit, ils s'étaient un peu affaiblis les Juifs, et ils ont renforcé de nouveau de faire la fête de Pourim. Mais excusez-moi, ça cloche, parce que c'est marqué les dix versets auparavant qui sont pris sur eux, qu'ils allaient le faire dans chaque ville, dans chaque pays, pour tout, ils sont immuables, total. Pourquoi tu me répètes maintenant qu'il faut faire la fête de Pourim? Tu m'écris ce mot-là, kol tokef, toute la puissance, puissance de quoi? Et il y a aussi une chose intéressante, vatirtov. Le premier taf du mot Vatirtov, il est écrit en grand, en majuscule, dans la Megillah. Il y a des fois des lettres en minuscule, des fois en majuscule. C'est une majuscule. Pourquoi ce grand taf? Voilà, chers amis, la question posée. Dans quelques minutes, il y aura la réponse. Pour comprendre la réponse, je dois vous parler d'un cours très connu que j'ai fait qui s'appelle Germania. J'espère que vous l'avez tous vu. Ben, sinon, maintenant, je vous recommande de le voir parce que je vais en parler maintenant, mais en résumé. C'est dommage de voir en résumé, il faut le voir en vrai avec les images, et c'est fantastique. Ça parle de la paracha de Vaishlach. Vaishlach, c'est Yaakov qui revient de chez Lavan après 20 ans qu'il a vécu là-bas, en Irak, chez Lavan. Il revient en terre d'Israël. Et sur le chemin, on nous dit, Vaishlach Yaakov, c'est le début de la paracha, Vaishlach Yaakov malachim lefanav elessav achiv ersasir sde edom. Et Yaakov envoya des anges. Malach, ça peut être aussi un envoyé terrestre, un envoyé humain. Ça peut être aussi un ange. Rashi dit des anges. Malachim mamash, vraiment des anges. Lefanav, devant lui, elessav achiv ersasir, vers Esav son frère, dans le pays de Seir, dans la campagne d'Edom. Ce verset, il ne veut rien dire. Il ne veut rien dire. D'abord, pourquoi t'envoies des anges? De quel droit t'envoies des anges? Alors, quelqu'un comme Yaakov Avinu peut se permettre d'envoyer des anges, mais quand il y a une nécessité. Tu avais des centaines ou des milliers de serviteurs. Tu prends quelques-uns à dos de chameau, ils vont quelques jours voir Esav, dire le message et revenir. Pourquoi t'envoies des anges? De quel droit? Si tu n'as pas le choix, je comprends, mais tu as le choix. Première question. Deuxième, il a envoyé les anges devant lui. Il va où, Yaakov? Il va en terre d'Israël, voir son père Yitzhak. Qui est là-bas avec Yitzhak? Esav, qui, comme j'ai dit auparavant, il faisait kibboud avehem. Donc, c'est clair que si tu envoies des anges vers Esav, c'est devant toi. C'est ni à gauche, ni à droite. Pourquoi c'est marqué devant? Il n'y a jamais un mot qui est écrit dans la Torah pour rien. Pourquoi c'est marqué devant lui? Troisième question. T'envoies chez Esav, Arsa Seir, dans le pays de Seir. Erreur. Erreur. Esav, il n'est pas en Seir. Il est en terre d'Israël avec Yitzhak. On est ici au chapitre 32. Au chapitre 36, la Torah va nous dire que Esav, il avait tellement de troupeaux, et Yaakov tellement de troupeaux, qu'Esav s'est dit, ok, je suis le camp, je ne reste pas ici en Israël, je pars. Il est parti, et est allé dans le pays de Seir. C'est dans quatre chapitres. Qu'est-ce que t'envoies maintenant? Les envoyer à Seir. Ça ne tient pas la route, il n'est pas là-bas, ils savent. Mauvaise adresse. Il leur ordonne de dire à Esav, j'étais jusqu'à maintenant avec Lavan, va'echar ad ata, et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Quoi tarder? On a fixé rendez-vous, que tu me dis que tu as tardé, on n'a fixé aucun rendez-vous. Pourquoi tu as tardé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? T'es en retard par rapport à quelle date? Qu'est-ce qui se passe? On va expliquer cela un peu plus tard. Les anges reviennent et disent, et ça vient avec toi avec 400 hommes. 400 hommes, 400 mercenaires pour te tuer. Yaakov, il a une peur terrible. Et il décide de partager son camp en deux. Se disant, si viendra Esav sur un des camps, l'autre camp sera sauvé. Bon. En parenthèse, c'est intéressant parce que Rashi nous dit ici que le mot machane, camp, on peut l'écrire au masculin ou au féminin. Il y a des mots comme ça en hébreu qui peuvent être ou masculin ou féminin. Esh, rouach, ici plusieurs mots comme ça. Là, le premier mot camp, si vient Esav sur un camp et le frappe, ce camp, il est marqué au féminin. Hamachane ha achat. Achat, c'est féminin. Alors, il dit le deuxième camp, vaya machane ha nishar lefleta. Nishar, c'est masculin. Dans la même phrase, tu me mets, je comprends que Mahane peut être féminin, masculin, mais dans la même phrase, tu me le mets une fois masculin, une fois féminin, c'est un truc bizarre, là. Aïe, 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 messieurs, quel secret extraordinaire il y a là-dedans, phénoménaux, phénoménaux, phénoménal, phénoménaux, je ne sais pas. Yaakov prie à Dieu, après il va dormir, très bizarre qu'il aille dormir dans cette situation-là, et c'est pas marqué qu'il s'est réveillé. C'est marqué, il était dormir balaïlaou. Vayal encham balaïlaou. Il était dormir cette nuit. Souvenez-vous bien de cela. Balaïlaou, cette nuit. Et il envoie des bêtes, des troupeaux à Esav. Plusieurs troupeaux comme ça, en tant que cadeau pour la Madoué. En tout, si on fait le compte, il y en a 580. 580. Question. Comme j'ai dit auparavant, Esav et Yaakov, ils avaient des milliers de têtes de bovins. Des milliers, des milliers, des milliers. T'envoies 580, c'est ça qui va calmer Esav. Et ça, rien que pour payer les 400 hommes qu'il a pris des mercenaires, il faut les payer les mercenaires. Combien on lui paye? Allez, au moins 10 moutons. D'accord, ça fait déjà 4000 moutons. Qu'est-ce que tu envoies à 580? Et quand je dis 10 moutons, c'est rien, d'accord? Un mercenaire, il prend bien plus que cela. C'est rien du tout, c'est une blague. Et c'est marqué après que ce cadeau-là est passé Alpanav devant lui, Rachid est sur place, Midrash Agada, Af hu sharui bekas, she'atzarech lekolze. Lui-même était en colère qu'il devait envoyer tout ça. Yaakov, tu es en colère pour sauver ta peau et ta famille. Il vient te tuer, t'envoies 580 bêtes, de ça tu es en colère. Mais t'as des dizaines de milliers, qu'est-ce que ça fait 580? On comprend qu'on ne comprend rien. Et encore beaucoup de choses dans ce texte-là, mais je n'ai pas le temps. Allez voir le cours Guermamia, c'est phénoménal. On va commencer à donner les réponses à ces questions et commencer à découvrir des secrets fantastiques. Be'ezrat Hashem. Dans le traité de Megillah, page 6, A et B, en bas page A et haut page B, il y a un verset dans Tehilim. Rabbi Yitzhak demande le sens de ce verset Tehilim. « Aski sanchem ma'avei rachaz, mamou atafek yarou moussela » Ne donne pas à Dieu les envies du rachat, du mécréant, ne lui enlève pas sa muselière, il monterait trop haut. C'est qui ce méchant? C'est quoi cette muselière? De quoi il s'agit? La Gemara dit, Yaakov a prié devant Dieu, il lui a dit, Dieu, ne donne pas à Esav Aracha, à Esav le mécréant, l'envie de son cœur. N'enlève pas sa muselière. Qu'est-ce que c'est cette envie de son cœur? La Gemara dit, c'est Girmamia chez l'Edom. Girmamia de Edom. Edom, on sait, c'est l'Occident. Germamia, Rachid dit un pays d'Occident. Connaissez-vous un pays qui s'appelle Germamia en Occident? Il n'y en a pas. Il y a Germania avec un N. Mais le Gaon de Vilna a déjà écrit sur la Mishnah. Il y a une Mishnah qui parle des taches de lèpre. Et là-bas, la Mishnah parle d'un Germonie. Germonie. Alors, le Gra dit c'est Germania, c'est l'Allemagne. Mais ici, dans Megillah, c'est marqué Germamia. Parce que si. Les princes et les rois allemands auraient vu que dans le Talmud, c'est marqué que l'envie mauvaise de Esav, c'est le Saint-Empire romain germanique, tous les juifs allemands ont été zigouillés. Bon, pour finir, ils ont été zigouillés. Je vous parle maintenant pendant les 1000 ans de l'Empire Saint-Empire romain germanique. D'accord? Donc, la Gemara, elle a fait une correction. La censure, ils ont mis Germania. Non, c'est pas vous, c'est un vieux peuple de l'époque, la bande Palestine, ça ne vous concerne pas. En tout cas, nous, on voit que Esav, son but, Akmara continue, dit, chez Ilmalen Yotzim, Machrivim, Kola Olam Kulo. Car s'ils sortent, tu laisses sortir Dieu, ils vont détruire le monde entier. Akmara parle d'un pays qui est l'envie de Esav, que si tu les laisses sortir Dieu, ils vont conquérir le monde entier. Sachez que Hitler voulait le monde entier. En 1935, il a demandé à son architecte qui s'appelle Speer de réorganiser toute la ville de Berlin, qui serait la capitale du monde et qui s'appellerait Germania. Plus de Berlin. Germania, capitale du monde. Écrit dans la Gemara il y a presque 2000 ans. Phénoménal. La Gemara continue et dit, Adir Rabbi Hama Bachanina, il y a 300 couronnes en Germania d'Edom. C'est quoi des couronnes? 300 princes, 300 principautés. Certainement, vous vous rappelez de vos cours d'histoire à l'école. Vous avez étudié là-bas l'unité allemande il y a 150 ans. Jusqu'à 150 ans, en Allemagne, il y avait 300 principautés et grandes villes séparées. Est venu Otto von Bismarck, très connu, et a fait l'unité allemande. Il a réuni l'Allemagne ensemble. La Gemara dit il y a 300 principautés. Et il y avait 300 principautés. Je posais la question, d'où savait la Gemara qu'il y avait 300 principautés en Allemagne, dans le pays de Esav? J'ai une réponse toute simple. C'est quoi le pays de Esav? Saïr. Comment on écrit Saïr? Shin, Ain, Yud, Resh. Les trois dernières lettres, c'est quoi? Ir. C'est quoi Ir? Une ville. C'est quoi Shin? Combien ça vaut Shin? 300 villes. Ben voilà, tout bêtement. Tout bêtement. En tout cas, nous voyons que l'épopée nazie était prévue, c'est Esav, qui voulait devenir le maître du monde entier, Adolf Hitler. Entre parenthèses, combien ça vaut la valeur numérique du mot Essav? 376. Avec le collègue, 377. La valeur numérique du mot Essav. Essav, c'est trois lettres. Aïn, Shin, Vav. Aïn, c'est 70. Shin, c'est 300. Vav, c'est 6. Ça fait 376. Maintenant, on rajoute toujours aussi, pas toujours, mais très souvent, le collègue. Le mot lui-même, ça vaut 1. 377. Adolphe, vous ferez le calcul, ça fait 121. Avec le collègue, ça fait 122. Hitler, ça fait, c'est 225, si vous me souvenez bien, 255. Avec le collègue, 256. Ça nous fait en tout la gamatria 377, gamatria de Essav. Essav égale Adolf Hitler en valeur numérique. Comprenez ce qui s'est passé à la Shoah. Le but de Essav de venir avec 400 hommes pour nous tuer, il a fait. Mais il a fait plus tard. Et là, on va expliquer une chose très importante. On va poser une question ici. On a vu que Yaakov, il a partagé son camp en deux. Pour quand il va rencontrer Esav, si Esav touche un des camps, le deuxième sera sauvé. Bêtise. Bêtise. Presque aucun commentateur pose la question et pourtant ça hurle. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. On les voit tous ensemble. C'est marqué qu'il les a séparés. Il a mis au premier rang les fils des concubines, après les fils de... après Yosef et Rachel. Mais ils sont tous là. Alors qu'est-ce que tu me dis qu'il a séparé en deux? Non, il a séparé, après il a remis ensemble. Alors pourquoi tu me racontes ça? Pourquoi tu me dis qu'il a séparé pour remettre ensemble? Ça ne sert à rien. C'est quoi cette histoire qu'il a séparé? Il n'a jamais séparé. Et là, on va commencer à expliquer les réponses à toutes les questions qu'on a posées. En fait, lorsque Yaakov envoya des anges en avant au pays de Séir, il a envoyé en avant. C'est quoi en avant? Ça ne sert à rien ce mot-là, c'est évident, s'il va maintenant chez son père Israël, c'est en avant. En avant dans l'histoire. Il vivait il y a 3500 ans, Yaakov. Il envoie des anges. Pourquoi des anges? Je ne peux pas envoyer dans l'histoire, en avant, dans le futur, des serviteurs sur des chameaux. Ça ne marche pas. Des anges. Ça, tu peux prendre des anges. Allez voir le sale coup que me prépare Esav pour la fin des temps. Les anges reviennent et disent, il revient avec 400 hommes pour te tuer. Pourquoi on dit 400? Qu'est-ce qu'on a à faire que c'est 400? Une armée pour te tuer. 400, c'est les forces du mal. Très souvent, on voit 400. Yaakov, Avraham Avinu, il va acheter le caveau de Marpella pour sa femme et lui et toute la famille. Pour 400 shekels, c'est la somme qu'il fallait donner aux forces du mal pour retirer le caveau de Marpella. De qui il achète cela? De Ephron. Ephron, valeur numérique, 400. Le roi David va se battre contre Amalek. Il prend avec lui une armée entière. Il tue tous les Amalécites, sauf 400 qui s'échappent. Et lui-même, il va laisser 400 gardes sur le camp. La Gemara raconte que Rav Matana va dans la rue, il voit une femme mal habillée. Il a déchiré son habit. Il lui même aimé, I'm not you, je ne suis pas juif, je suis une... ce que j'en sais moi, d'accord, une Anglaise. Oh là là, il a dû payer une amende de 400 shekels. Yalta, la femme de Rabbi Nachman, on ne leur a pas envoyé après le repas, le Birkat Amazon, le verre de vin. Elle n'était pas contente, elle a cassé 400 tonneaux de vin. Chaque fois qu'on nous parle de mal, c'est 400. Le Ramchal dit, 400, c'est la dernière lettre de l'alphabet, et c'est marqué Ragaya Yordot Mavet. C'est pied, là, un pied qui descend jusque dans la mort. 400, c'est les forces du mal, jusque dans la mort. Et ça vient avec 400 hommes. Les anges reviennent lui dire à Yaakov, il vient maintenant à Esav à la fin des temps avec 400 hommes pour te tuer. C'est quoi 400? Prenez un taf. Mettez un autre taf au-dessus, à l'envers. Qu'est-ce que vous avez? La croix gammée. La croix gammée. Et pas la croix hindoue, qui est la svitska qui est à l'envers. C'est la croix gammée, les forces du mal. C'est ça Hitler, c'est ça Esav. Donc on commence à avoir des réponses à toutes nos questions. Pourquoi t'envoies des anges? Pourquoi en avant? Pourquoi Séir? Parce que Séir, c'est le pays, c'est l'Allemagne, 300 villes. Pourquoi 400? Et il sépare son camp en deux. Pas à l'époque, il y a 3500 ans, pendant la Shoah. Une partie sera décimée, tout le nord du peuple juif, tous ceux qui étaient en Europe, ils ont été ratatinés, et le sud, Baruch HaShem, ils ont survécu. C'est ça qu'il a partagé en deux. Pourquoi au féminin ou au masculin? Féminin, c'est le din, c'est la gauche. Toujours dans la Torah, quand on va en face, c'est l'est. Derrière, l'ouest. La gauche, c'est le nord. Le sud, c'est le masculin, c'est le sud. Donc, s'il vient à Essaves et frappe un des camps féminins, le nord, toute l'Europe, l'autre camp, sud, toute l'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, etc., sauvé Bahour Hachem. Sauvé. En passant, les gens ne savent pas, tu demandes à des gens qui sont un peu calés en histoire, bon, c'est quoi la première défaite allemande durant la Seconde Guerre mondiale? Alors, tous disent Stalingrad, février 43, dans le Baba. C'est faux. C'était en Égypte, la bataille de El Alamein, début novembre 42. Première défaite allemande. Le général allemand Rommel, Erwin Rommel, qui était un général brillant, vient se battre contre Montgomery, le général anglais, et les Anglais vont gagner la guerre. Pas parce que les Anglais étaient plus forts, il y a eu un problème de conjonction entre les bateaux d'essence et les tanks allemands. Les tanks ont été immobilisés, ne pouvaient pas bouger, plus bouger, il n'y avait pas d'essence. Plus bouger, les Anglais ont attaqué et ont gagné. Si les Anglais perdaient cette guerre contre Rommel, en quelques jours, Rommel était ici en Israël. Et c'était la fin. C'est aussi écrit dans la paracha, je n'ai pas le temps de tout vous raconter ça, vous regardez le cours de Germania. D'accord? C'était la fin. C'est la première défaite allemande pour que Jérusalem ne soit pas conquis, pour que nous on puisse être ici maintenant, avoir une nouvelle vie, Bézat Hachem, ma chère viendra très bientôt. D'où on voit dans les sages d'Israël que ce passage de Yaakov, comme j'expliquais maintenant, qui parlait du futur, ça c'est moi qui dis, c'est un peu gonflé, tu viens, tu dis, Yaakov il parle du futur, en avant, les anges, tout ça. Il y a un signe dans les écrits de Chazal, le Tour, Baal HaTourim, qui est un des grands commentateurs de la Bible, vivait au XIIIe siècle, il dit, lorsque Yaakov dit aux anges de dire à Esav, Vaechar ad ata, j'ai tardé jusqu'à maintenant. Pour la question, pourquoi tu lui dis ça? Lui, il dit le tour ata, jusqu'à maintenant, c'est trois lettres. Ein, taf, hei. Ein, c'est 70. Il faut, je te rencontrerai après que passent 70 ans qu'il y a entre le premier temple et le deuxième temple. Taf, c'est 400. Les 400 ans d'esclavage d'Égypte. Hei, 5. 5000 ans. Au sixième millénaire, je te rencontrerai. Voilà une source des sages d'Israël, comme quoi la rencontre entre Yaakov et Esav dont on parle, c'est la fin des temps. Il y a eu une rencontre à l'époque, ils sont vus, mais ils ont passé par le campement, ils sont embrassés, tout allait bien, d'accord. Mais il y a une autre rencontre, celle dont parle Yaakov, que s'il vient sur un camp et le détruit, l'autre sera sauvé, c'était pendant la Shoah. C'est quoi les 580 bêtes qu'il envoie Yaakov pour amadouer Esav et il s'amadoue? Il ne sait rien du tout. En fait, si on prend le chiffre le plus grand qu'il y a en hébreu, c'est 10 000, Revava. Il n'y a pas de chiffre plus grand. On n'a pas un million, on n'a pas 200 000, d'accord. On a Revava, c'est 10 000. Si on compte que chaque bête correspond à 10 000, ça te fait en tout 5 800 000. 5 800 000, c'est le chiffre authentique du nombre de morts pendant la Shoah. Comme ça dit l'Institut pour la Shoah en Amérique, ils ont fait le calcul, ce n'est pas 6 millions. 6 millions, on a un peu arrondi, d'accord. 5 800 000, c'est exactement le nombre de bêtes que Yaakov envoyait à Esav pour le calmer. Les forces du mal. Et après ça, Baruch HaShem, Hitler a été détruit, et on a pu revenir, Baruch HaShem crie l'État d'Israël, venir en Israël, etc. 580, ça correspond à la valeur numérique du mot Seir, qui non seulement est le nom du pays de Esav, mais Seir c'est quoi? C'est le bouc, Seir l'Azazel, le bouc qu'on envoyait à Yom Kippour, aux forces du mal, pour qu'il arrête de nous accuser. Et comme ça, on pouvait passer et Dieu pardonnait nos péchés. Comme les gens qui ont des troupeaux là-bas en Amérique du Sud, quand ils veulent passer une rivière où dedans il y a des poissons là, comment on appelle ces poissons là, hein? Piranhas. Qui dévorent. Alors ils jettent une vache, tous les piranhas sautent sur la vache, il a des bourres et hop, le troupeau il passe tranquille. C'est ça qu'on fait à chaque année à Yom Kippour. On envoie un Seir l'Azazel, un bouc dans le désert qu'on jette là-bas à un endroit, le Azazel du mal, et comme ça on passe. C'est ce qui s'est passé. On a envoyé, hélas, un tiers du peuple juif, 580, c'est terrible. 580, ça veut dire 5 800 000 juifs qui sont morts là-bas, mais Baruch HaShem, après, Dieu a dit, ok, vous pouvez revenir en terre d'Israël, ça va être la fin, Bézat HaShem, très très bientôt, dans quelques jours. Et on va parler maintenant de la suite. On a posé la question, pourquoi c'est marqué deux fois Esser Bat Avichail? Je pense que ce n'est pas son nom, le nom de son père, c'est vrai. Mais là, on parle de son père, du père de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, le père. Pourquoi? Avi Chaïl, mon père, Chaïl, c'est le combat. Ces deux fois où on parle d'Esther, c'est quand, en situation maintenant où elle ressemble à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il rencontre Esav, alors il s'embrasse, et après il se met à parler. Esav lui propose, viens, je te donne quelques gens avec toi, comme ça, en cadeau. Il lui dit, non, yesh li kol, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça, c'est la réponse qu'a donnée Esther. Rav Chaim Kanievski, il dit, pourquoi on a cité ici le père? Parce qu'il dit, parce que son père, le vrai père, il était humble, comme ça, il prenait rien de plus que ce qu'il fallait. Mais moi, je vais plus haut, jusqu'au père qui lui-même a dit ça, yesh li kol, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai besoin de rien. Alors, Megla nous dit, c'est la fille, arrière-arrière-petite-fille de Yaakov, qui a dit aussi, moi, je veux rien. Et la deuxième fois, ça va devenir intéressant, où on a cet écrit Bat Avichail, où ils écrivent cette lettre Kol Tokef, toute la puissance, avec un grand taf. Le grand taf, on sait ce que c'est. C'est quoi? 400, les forces du mal, la croix gammée. Moi, je pense qu'après que Mordechai et Esther ont écrit la lettre au peuple d'Israël de faire la fête de Pourim, mais que tous sont acceptés pour toujours, c'est bon. Mais ils ont vu qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. Nous, on a réussi avec Haman. Yaakov, il a mis en place, mais il y a encore quelque chose qui doit arriver. La fin des temps. Hitler, il marche mort. Alors, ils ont écrit une deuxième lettre qui concerne la Shoah et peut-être la guerre qui aura la semaine prochaine. La Shoah, le grand taf. Vatir Tov, elle a écrit avec un grand taf. Attention, on a encore une chose qui va arriver. Pourim, c'est déjà réglé, tout le monde le fait, c'est terminé. Pourquoi on reparle maintenant une nouvelle lettre pour ce qu'il y aura à la fin des temps. Il y aura encore 400 qui vont venir. Mais là, il y aura Kol Tokef, toute la puissance. Puissance de quoi? On ne sait même pas. Deux explications. Une, c'est un grand commentateur de la Chassidut, c'est Maor Vashemesh. Lui dit que Tokef Gematria Seir, pour nous dire que Pourim, c'est une fête où il n'y a pas de péché, tout est pardonné. Pourim, c'est comme Yom HaKippourim. Et moi, j'ai récupéré ce chidouche du Maor Vashemesh, je dis, ok, alors c'est quoi 580 Tokef, c'est Seir, c'est 580. Là, on a un signe comme quoi Esther nous dit, taf, la croix gammée est 580. Ça me dérange un peu, parce que ça vient sur un mot Tokef. Tokef, c'est une fille puissance. Quelle puissance? Tu as été ratatinée dans les camps à Auschwitz. Quelle puissance? À mon avis, le taf correspond à la Shoah, le Tokef correspond à la guerre qui, normalement, va commencer à Pourim la semaine prochaine. Par le mérite de Seir, comprenez quel mérite on a, que 5 800 000 sont morts dans les camps, mais c'est un mérite terrible. Un qui meurt à Kiddush Hashem, c'est la plus grande mitzvah de toutes les mitzvahs de la Torah, mourir parce qu'on est juif. Là, tu en as 5 800 000. C'est ça qui va nous permettre, Bédrat Hashem, Kol Tokev, toute la puissance, pour détruire notre ennemi, et on va aller vers la Géoula. Je vous rappelle encore deux choses super intéressantes. Il y a 2 ans, toutes les yeshivas ont été voir le Yanouka. Et moi, j'aime bien parler de la Géoula et tout ça, et la guerre, et les Françaises qui doivent rentrer, rester, tout ça. Bon, et il a fait tout un discours, puis il a dit, sachez que dans la guerre qu'on aura à la fin des temps, Mordechai et Esther vont se battre. T'entends? Normalement, la guerre sera pourrie la semaine prochaine. Mordechai et Esther vont se battre. C'est ça le Tokev qu'elle écrit. Ils écrivent, voilà, on va se battre. Il y aura le Tokev, toute la puissance. Et grâce aux 580 qui sont morts, 500, ça veut dire 5 800 000, on va gagner cette guerre contre Esav, contre Amalek. Deuxième chose que je voulais vous dire, le rabbi de Chabad, le rabbi Lubavitch, il y a un verset qui dit, c'est le verset, le dernier verset de la fin des temps, dans la Torah, que dit le prophète Bilham. « Vitsim miyad kitim, des flottes armées viendront des îles éloignées. » Vainu Ashur vont persécuter l'Assyrie, le pays d'Assyrie. C'est quoi? C'est l'Irak. Vainu Ever, elles vont persécuter le pays qui est au-delà du fleuve. Le fleuve, c'est l'Euphrate, au-delà, c'est l'Iran. Mais Gamwa de Oved, lui aussi disparaîtra. Fin de la prophétie. C'est la fin des temps. Des troupes armées par bateau viendront des îles éloignées d'Amérique. Vont attaquer le pays d'Assyrie, c'est l'Irak. C'était quand? Guerre du Golfe. À l'époque, Bush, le président américain, il dit à Chirac, viens avec moi, je vais faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. Ça a paru dans les journaux. Chirac a dit, mais c'est quoi ce Gog ou Magog? On dit qu'il allait voir le Rav Citruc, c'est quoi ce Gog ou Magog dont tu parles? Il est fêlé. Bush, c'est un Américain qui a, c'est un évangéliste, il a étudié la Bible, il a dit je vais le faire, il l'a fait. La première partie, c'est la guerre contre l'Irak. Deuxième partie, contre l'Iran, et c'est fini. Le Rabbi Lubavitch, à l'époque, la guerre a commencé, la guerre du Golfe, le 4 Shvat. Il a dit, à Purim, ça finira. Ça finit à Purim. Et le Rabbi Chaim Kanievski, tout le monde lui demandait, est-ce qu'on porte des masques? Parce qu'on avait peur que ce discute avec du chimique. Il a dit, le masque pour Purim. Du genre, jusqu'à Purim, tout ira bien, on portera tous des masques. Les rattachés. Ça s'est arrêté. Moi, j'ai cru et j'ai appris que le Rabbi Lochabad, il a dit ça. Il a dit, ça va s'arrêter à Purim et ça va recommencer après. Vraisemblablement des Purim, mais ça sera à Batsra. Batsra, c'est la deuxième ville d'Irak, Bassora en français, qui est à 50 km de la frontière iranienne, sur laquelle actuellement l'Iran est en train d'amener toute son armée. D'accord, il y aura là-bas des combats meurtriers. Et dans le prophète Isaïa, où c'est marqué Miseba mi batsra chamus, Miseba chamus gadim mi botsra, rav l'oshia, qui est celui qui vient avec ses habits qui sont tout rouges, éclaboussés de sang, de botsra, rav l'oshia pour nous sauver. C'est la fin des temps, Bezrat Hashem. Donc Rabbi Chabad a dit il y a une deuxième guerre qui va recommencer à Purim, pour la fin, Bezrat Hashem. On espère que celle que nous aurons la semaine prochaine. J'espère, et on envoie un signe à cela dans la Megillah. Vous avez encore 2 minutes, je vous donne encore un très beau chidouche qui est dans la Megillah, vu que c'est Megillah Tessar très bientôt. Ça n'a presque rien à voir avec le sujet, mais quand même, c'est trop beau pour pas... Ceux qui veulent voir cela en mieux avec des photos, tout ça, qu'il aille voir dans le cours Germania. On reprend notre hommage en français. Je vous lis la Megillah. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent ainsi et exterminèrent 500 hommes. En outre, par Shandata, Dalphonas, Pata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisa, Arida, Evaizata, les dix fils d'Aman, fils d'Amdata, persécuteurs des Juifs. Ils les mirent à mort, mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Si on parle de la Shoah, on n'a pas porté la main sur le butin. Il est resté en Allemagne, d'accord, ils ont tout pris. Le jour même, le compte des victimes tombées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi. Sachez qu'on écrit le roi dans la Megillah, c'est Dieu. Le roi Achashverosh, le roi, c'est Dieu, au niveau du Drash. Et celui-ci dit à la reine Esther, à Suse, la capitale, les Juifs ont tué et exterminé 500 hommes, ainsi que les 10 fils d'Aman. Que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces du roi? As-tu encore une demande à présenter? Elle te sera accordée. Un souhait à exprimer, il sera réalisé. Dieu dit à Esther, on a tué tous les ennemis, les 10 fils d'Aman ont été pendus. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, accordé d'avance. Elle aurait demandé le temple, dommage. Esther répondit au roi, si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit permis aux Juifs d'en Suse de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et que le 10 fils d'Aman soit pendu à la potence. Tu vas faire demain ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont tué tous les Amalécites. Et les 10, ils les ont pendus. Tu veux en faire la même chose? Le roi ordonna de procéder de la sorte, et un édit fut publié à Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman. Ils ont déjà été pendus hier. Qu'est-ce que tu reprends de nouveau les cadavres? Oui, c'est ce qu'elle a demandé. Bizarre. Demande un truc bien plus intéressant. À mon avis, ça revient sur ce qu'on a dit. Sachez qu'il n'y a aucun texte de la Bible où il y a autant de secrets que la Megillat Esther. C'est connu, c'est un truc, on ne comprend pas la moitié. C'est plein de secrets. Pas moi qui l'ai dit, c'est des grands d'Israël. En fait, elle a demandé qu'on puisse refaire version 39-45 ce qu'on a fait à Purim, qu'on gagne contre les nazis et qu'on pende les grands dirigeants nazis. Combien il y en avait? Une vingtaine. C'était les procès de Nuremberg. À la fin, 11 ont été condamnés à mort par pendaison. Un, le chef de la Luftwaffe, l'armée de l'air, Hermann Göring, se suicide dans sa cellule. Il ne reste plus que 10. Il avait du poison dans une bague, il s'est suicidé. Il ne reste plus que 10. Le 16 octobre 1946, c'est quoi 16 octobre? C'était le jour de Hoshana Rabba. C'est quoi Hoshana Rabba? Qu'est-ce qu'on fait Hoshana Rabba? La veillée, tout le monde veille. Pourquoi? Parce que c'est le moment du jugement ultime de Dieu. Dieu juge Rosh Hashana, après Kippour. Le dernier moment, c'est à minuit, la nuit d'Hoshana Rabba, 16 octobre 1946. Les 10 sont voyés à la potence. La date, c'était l'année 5707. le calendrier juif. 5707. Dans toutes les Miguelot Esther, depuis toujours, j'ai des photos de Miguelot du Moyen-Âge. Quand il y a la liste des 10 fils d'Aman, il y a une grande lettre, un grand vav, dans le mot Vaizata, le dernier. Vaizata, un grand vav. Et trois petites lettres. Taf, Shin, Zain. Taf, Shin, Zain, c'est 707. Vav du sixième millénaire, le grand vav. En cette date-là, c'était le jour du jugement ultime de Dieu, de l'année 5707, donc 707 du sixième millénaire, les 10 fils d'Aman ont été pendus. Procès Nuremberg. Témoignage de Julius Streicher, un des 10 qui a été pendu. Juste avant d'être pendu, il crie, ceux qui parlent allemand ici seront contents, « Pour un fest 1956 !» Et on le pend. Qu'est-ce que c'est en français ? Fête de Pourim 1946. Pourim, c'est pas Pourim, c'est Rosh Hashanah Rabba. Pourim, c'est au mois de mars ou février cette année. Là, on est au mois d'octobre, le 16 octobre. Qu'est-ce que tu dis Pourim Fest ? Lui-même, ce nazi l'a compris. On a refait le coup de Pourim des 10 pendus. Version 46. 1946. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.